Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 18h30 en temps universel, 19h30 ici à Paris, 20h30 à Maputo.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité africaine pendant 30 minutes. C'est avec vous la première édition d'Afrique Soir. Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, Mozambique, Maputo, ville morte au premier des trois jours de grève générale lancée par l'opposition, alors que les députés issus des élections contestées du 9 octobre ont été investis à l'Assemblée nationale. Au Niger, vive émotion à Agadez, où réside depuis plus de 30 ans l'Autrichienne Eva Gretzmacher, enlevée samedi soir chez elle par des hommes non identifiés, et le rap n'a toujours pas été revendiqué. Le bras de fer diplomatique entre Alger et Paris, la décision de l'Algérie de renvoyer un influenceur expulsé par la France a mis le feu aux poudres. Elle provoque de très vives réactions dans une partie de la classe politique française. Ce sera le dossier d'Afrique Soir. L'Open d'Australie de tennis à Melbourne, 11 jabeurs. La Tunisienne entre en lice ce soir. Elle revient de loin après une année marquée par des blessures. Et puis, tour d'horizon de l'actualité musicale. Ce sera en compagnie de Franck Baudin, de la rédaction web de RFI, de la douceur et de la furie au programme. Maputo, ville morte au premier des trois jours de la grève générale décrétée par l'opposant Venancio Mondlane. La contestation se poursuit dans la capitale du Mozambique, alors que ce lundi, les députés ont été investis dans la nouvelle Assemblée nationale issue des élections générales contestées d'octobre dernier. Amir Aswilem.
Sur la route de l'aéroport, des barricades ont été fabriquées avec des pierres, des pneus ou des déchets. Au loin, des tirs de gaz lacrymogène. Osvaldo est venu manifester.
On est en train de mourir et de perdre nos frères. Il y a déjà plus de 400 morts. Et on voit encore des jeunes ici qui battent le pavé pour que la vérité électorale ne soit pas oubliée. En vérité, l'indépendance du Mozambique commence aujourd'hui.
Un peu plus loin, le quartier de Benfica est comme désert. Céliziou est l'un des rares commerçants à avoir ouvert son échoppe. Il a peur des pillages. Son magasin a déjà été vandalisé deux fois depuis le début de la crise.
Ils sont entrés et ont tout volé. Je ne l'ai vu que le lendemain. C'était tout vide. Ça va mal. Nos propres frères nous sabotent. Je voudrais que tout redevienne normal, mais Venancio a raison. Pour qu'il y ait du changement, il faut des sacrifices. Je le soutiens.
Dans le centre-ville, le quartier de l'Assemblée nationale est totalement bouclé par la police. Aucune voiture ne passe, sauf celle des députés. Alfonso n'en revient pas.
Ce n'est pas normal dans ce contexte de manifestation que les députés soient investis. Ils refusent de voir que le pays va mal, que le peuple est fatigué. Ils vont être investis pour faire quoi? Ils devraient être du côté du peuple, ils devraient ouvrir les yeux.
Dans son discours, Margarida Talapa, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, a promis un Parlement ouvert au dialogue et inclusif.
Nouakchott, 103.3 FM.
Dans l'actualité également, la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Mauritanie. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait choisi son grand voisin mauritanien pour sa première visite officielle à l'étranger, tout juste après son élection. Et depuis hier jusqu'à mercredi, c'est donc au tour du chef du gouvernement sénégalais d'être à Nouakchott. Une visite destinée à renforcer notamment les liens économiques entre les deux pays. Léa Lisa Westerhoff.
Tête à tête avec son homologue, le Premier ministre Mokhtar Ould'iaye ce matin, dîner avec le président de la Mauritanie et de l'Union africaine, Mohamed Ould'Razouani, ce soir. Pendant ces rencontres, Ousmane Sonko va revenir sur les grands sujets qui lient les deux pays. L'énergie d'abord, avec ce projet commun d'exploitation du gaz au large de Saint-Louis. Le 31 décembre a marqué la première production de gaz du projet. Le Sénégal avait émis la volonté de renégocier l'ensemble des contrats pétroliers et gaziers. Un audit du contrat avec BP a été réalisé. Ousmane Sonko va donc s'enquérir de la suite à donner à tout ça avec les autorités mauritaniennes, assure-t-on à la primature. Autre sujet crucial, le pont de Rosso qui doit faciliter la circulation et le commerce entre les deux pays. Le projet a pris beaucoup de retard. En juin, 40% seulement du pont était réalisé alors que la construction a commencé il y a deux ans déjà. Les échanges commerciaux, justement, ils sont trop faibles, estime le Sénégal qui veut les augmenter. 67,4 milliards de francs CFA en 2023. Le Premier ministre rencontrait donc le patronat mauritanien cet après-midi. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h34 en temps universel. Qui est cette Autrichienne septuagénaire enlevée samedi soir chez elle à Agadez, dans le nord du Niger, où elle réside depuis plus de 30 ans? Le ministère autrichien des Affaires étrangères a confirmé hier le rapt d'Eva Gretzmacher, c'est son nom. Cet enlèvement n'a pas été revendiqué. Des recherches sont en cours et à Agadez, l'émotion est vive, comme en témoigne Ibrahim Manzo Diallo. Il est directeur de publication du journal Aïr Info Agadez. Il répond à Magali Lagrange.
Tous ceux qui sont à Agadez connaissent Eva, l'Autrichienne. Ça fait presque une trentaine d'années qu'Eva vit avec nous ici à Agadez. Vous savez, Eva a toujours soutenu les ONG locales, surtout les petites ONG locales qui œuvrent dans le maraîchage. Et elle a l'habitude de dispenser des formations en couture aux jeunes femmes issues des milieux défavorisés, de promouvoir de la musique pour les jeunes. Et en collaboration avec d'autres écoles locales, elle organise des cours de loisirs, elle propose des cours d'informatique, des cours de langue. Elle a l'habitude d'organiser des concerts, des projections de films en plein air, ainsi que des soirées culturelles. Pour nous, c'est une sœur d'Agadez qui a été enlevée. Et franchement, nous prions Dieu de la ramener saine et sauve chez elle. C'est vraiment très dur pour la population d'Agadez. Vraiment, ça fait mal.
Et j'ajoute que le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est lié à Al-Qaïda, dément être lié à l'enlèvement de cette Autrichienne, Eva Gretzmacher. La prise d'otage est une importante source de financement pour Al-Qaïda au Sahel. Mais dans un communiqué publié ce lundi, les djihadistes assurent ne pas être à l'origine de ce rapt. Jusqu'où iront Alger et Paris? Le renvoi par l'Algérie jeudi soir d'un influenceur qui venait tout juste d'être expulsé de France pour des propos haineux, avant même d'être jugé, suscite des réactions très vives au sein du gouvernement français. Les relations entre la France et l'Algérie connaissent, on le sait, très régulièrement des périodes de tension, mais ce renvoi vient remettre le feu aux poudres. Après l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, mi-novembre, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et détenu dans une unité de soins. Bonsoir David Bachet.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et depuis cet épisode, les deux pays multiplient les déclarations, mais depuis le renvoi de l'influenceur algérien, jeudi, ce sont surtout les membres du gouvernement français qui cherchent à se faire entendre.
Oui, et la dernière déclaration en date, c'est celle de Gérald Darmanin. Hier, l'actuel ministre de la Justice veut supprimer un accord de 2013 qui offre une exemption de visa à certaines personnalités liées au régime algérien. Ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, selon Gérald Darmanin. Manin qui ajoute « Cette humiliation qu'on veut nous faire subir n'est pas acceptable ». Des propos qui reprennent ceux de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui accusait dès jeudi Alger de chercher à humilier la France. « La France ne peut pas supporter cette situation », avait-il alors clamé. « La France doit évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition », je le cite. Le ministre des Affaires étrangères prévenait vendredi que la France n'aurait pas d'autre possibilité que de riposter si les Algériens continuent cette posture d'escalade. Parmi les leviers cités par Jean-Noël Barrot, les visas, l'aide au développement ou d'autres sujets de coopération. Enfin, certains politiques comme l'ancien Premier ministre Gabriel Attal demande l'abrogation d'un traité datant de 1968 sur l'installation et le travail des Algériens en France. Réponse samedi du ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. L'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, poursuit le communiqué officiel, mènent une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie.
Merci David Bachy. Alors pour analyser ces déclarations, pour comprendre leur portée, on va écouter Adlène Mohamedi. Il est chercheur et enseignant en géopolitique. Il était l'invité d'Afrique Midi. Il répond à Nicolas Sûr.
Ces derniers temps, bien sûr, on savait que la rhétorique anti-française en Algérie était utilisée à des fins en grande partie de politique intérieure, parce que le but, c'était quand même de relégitimer le pouvoir algérien, et c'est un classique. Ce qui est nouveau, c'est qu'en France, maintenant, on fait ça de façon presque décomplexée aussi. C'est-à-dire qu'on utilise la relation franco-algérienne à des fins de politique intérieure de façon tout à fait décomplexée, parce qu'on a un contexte politique français aussi particulier. Et quand je parle d'utilisation de la relation franco-algérienne à des fins de politique intérieure, je parle évidemment d'une volonté de séduire un électorat en particulier Et par un discours anti-algérien, on vise forcément effectivement les électorats de droite et d'extrême droite. On donne l'impression que la relation franco-algérienne, de façon générale, est sacrifiable en fait. Et c'est toute la nouveauté aujourd'hui.
Il y a un point qui revient sur le devant dans cette nouvelle crise, c'est celui de l'accord de 1968 sur la circulation et l'installation des ressortissants algériens en France. Des voix s'élèvent dans la classe politique pour demander son abrogation. Mais qu'y a-t-il vraiment dans cet accord ?
L'accord de 68, c'est à une époque où il y avait un besoin de main-d'œuvre algérienne en France. Et l'idée à l'époque, c'était de faciliter l'installation d'Algériens en France, de faciliter notamment l'installation de la main-d'œuvre dont on avait besoin. Le problème, c'est qu'avec le temps, le droit commun des étrangers en général en France est devenu beaucoup plus favorable, en fait, que l'accord de 68 pour les Algériens. Les Algériens en 68 avaient un statut particulier, parce que l'Algérie n'était indépendante que depuis peu de temps, et aussi parce que on était dans un contexte où il y avait besoin économique de la main-d'œuvre algérienne, et aussi parce qu'il n'y avait pas de régime des visas à l'époque. Puis avec le temps, le régime des visas a été installé petit à petit, notamment dans les années 80. Puis le droit commun des étrangers a évolué parfois de façon beaucoup plus positive que cet accord de 68. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait avec des Algériens qui subissent la plupart du temps l'accord de 68. C'est qu'on est persuadé, en fait, on veut les vendre à l'opinion publique française comme des espèces de privilégiés. Mais dans les faits, un étudiant algérien en France est dans une situation beaucoup moins confortable qu'un étudiant marocain ou mexicain, parce qu'il n'a pas le droit, par exemple, à une carte de séjour pluriannuelle, parce qu'elle n'est pas prévue dans l'accord de 68. Et donc, il ne reste en fait que très peu d'Algériens qui bénéficient officiellement de l'accord de 68, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, qui peuvent avoir peut-être leur micro-entreprise plus facilement. Enfin, vraiment des détails par rapport au gros des immigrés en France. L'idée, en fait, c'est de dire aux Français, vous voyez, on a chouchouté les Algériens, maintenant, on va arrêter de le faire, parce qu'il y aurait une espèce d'attente, mais c'est une attente, en fait, qu'on retrouve surtout à droite et à l'extrême droite, une attente en ce sens.
Adeline Mohamedi, chercheur et enseignant en géopolitique avec Nicolas Sûr. En bref, en République démocratique du Congo, en RDC, la chaîne qatarienne Al Jazeera, suspendue pour 90 jours selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vendredi, les accréditations des équipes de la chaîne qatarienne avaient été retirées par le ministère de la Communication. Les autorités congolaises reprochent à Al Jazeera la diffusion d'une interview de Bertrand Bissimwa, l'un des responsables du groupe armé M23 qui sévit dans l'est du pays. Interview réalisée par Bojana Koulibaly, que Kinshasa qualifie de militante à la solde du Rwanda. En Ouganda, le procès de Kizza Besigye, ancien général de l'armée et figure emblématique de l'opposition, a repris ce lundi devant la cour martiale de Kampala. Accusé de détention illégale d'armes, il est de plus inculpé de trahison pour des crimes supposés commis à l'étranger, des accusations passibles de la peine de mort. Christina Okello.
Pour la défense de Kizza Besigye, ce procès est une question de vie ou de mort, car une condamnation exposerait l'opposant à la peine capitale. C'est pourquoi ses proches réclament depuis le début que l'affaire soit jugée devant une cour civile qu'ils jugent mieux équipée pour garantir un procès équitable. Mais cette demande a été rejetée aujourd'hui par la cour martiale qui a confirmé sa compétence pour traiter ce dossier à cause notamment du passé militaire de l'opposant. Autre coup dur pour la défense, l'ajout d'une nouvelle charge de trahison. Kizza Besigye aurait cherché le soutien logistique à l'étranger pour déstabiliser l'Ouganda avec la complicité d'un troisième homme, désormais inculpé également dans ce dossier. Le dernier espoir de la défense repose désormais sur la contestation de la légalité de la cour martiale à juger des crimes supposément commis hors du territoire ougandais. Si le tribunal militaire confirme sa compétence demain, la défense prévoit de porter l'affaire devant la cour constitutionnelle. Selon la défense, ces accusations visent à affaiblir Kizza Besigye, perçu comme un rival politique de longue date du président Yoweri Museveni à l'approche des élections de 2026.
Le Kenya de nouveau pointé du doigt après qu'une célèbre militante tanzanienne, Maria Sarungi Tseai, a été kidnappée dimanche à Nairobi, où elle vit en exil depuis 4 ans, libérée quelques heures plus tard sous la pression de plusieurs ONG. L'enlèvement a eu lieu à Nairobi en plein jour, mais la militante soupçonne des agents de sécurité tanzaniens opérant au-delà des frontières de la Tanzanie, je cite, pour faire taire les critiques légitimes du gouvernement. On l'écoute.
Vu à la vitesse à laquelle nous roulions et les routes empruntées, d'abord goudronnées avec des bosses, puis plus cabossées, puis de nouveau une voie rapide, j'ai compris qu'ils cherchaient à m'emmener de l'autre côté de la frontière, côté Tanzanie. Peut-être qu'une autre équipe attendait de l'autre côté, car ils n'arrêtaient pas de sortir de la voiture. Et quand j'ai demandé qui nous attendions, l'un d'entre eux m'a répondu qu'ils attendaient leur chef. J'ai dit « Ah, vous avez un chef ? Et qui est-ce ? » Et ils se sont énervés en réalisant disant qu'il m'avait donné des informations. L'autre raison pour laquelle je suis convaincue que les Tanzaniens sont impliqués est que mes ravisseurs voulaient absolument récupérer mon téléphone. Or, je ne vois pas pourquoi le gouvernement kényan voudrait m'enlever et m'emmener sur les routes uniquement pour avoir accès à mon téléphone. Il y a d'autres moyens. Je pense que les informations que je partage au sujet des autorités tanzaniennes leur provoquent des nuits blanches et que c'est la raison de mon enlèvement. Je crains qu'à l'approche de 2025, il y ait de plus en plus de menaces en Tanzanie et en dehors.
Des propos recueillis par Florence Maurice. Human Rights Watch dénonce l'augmentation des cas d'arrestation de militants de l'opposition en Tanzanie à l'approche de la présidentielle d'octobre. Par ailleurs, Amnesty, les cas de kidnapping sur le sol kényan d'opposants ou de dissidents étrangers se multiplient. Les vols directs entre la Libye et l'Italie ont repris ce dimanche après une pause de 10 ans. Une liaison Rome-Tripoli assurée par une compagnie italienne deux fois par semaine. Le ministre italien des Affaires étrangères applaudit. C'est une étape supplémentaire dans le rapprochement entre les deux pays. Nathanaël Vitran.
Cette reprise des liaisons aériennes assurées par la compagnie ITA Airways avait été décidée en octobre dernier lors d'un forum économique qui s'est tenu à Tripoli en présence de la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Le quatrième voyage en Libye pour la tête de file de l'extrême droite italienne depuis son arrivée au pouvoir, signe de l'intérêt qu'elle porte à ce sujet. Il faut dire que le chaos libyen qui a suivi la chute de Muammar Kadhafi en 2011 a favorisé la traite des êtres humains et l'immigration illégale. Des dizaines de milliers de migrants et de réfugiés africains ont depuis tenté la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie. En se rapprochant de Tripoli, Rome vise à la fois à favoriser le développement et la stabilisation de la région et à inciter les autorités libyennes à mieux contrôler leurs frontières. Pour le gouvernement installé à Tripoli et qui a toujours face à lui l'autorité rivale du général Haftar à l'Est, c'est un soutien économique précieux. L'ancienne puissance coloniale est redevenue le premier partenaire économique de la Libye.
L'Open d'Australie de tennis à Melbourne, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Once Jabeur, la Tunisienne, entre en lice et elle revient de loin. Son année 2024 a été marquée par des blessures. Elle a chuté au classement. Elle occupe actuellement la 39e place mondiale. Elle qui a été numéro 2 il y a un peu plus de 2 ans et qui a disputé 2 finales de Wimbledon. Finale perdue en 2022 et 2023. À 30 ans, la Tunisienne n'a pas dit son dernier mot. Elle espère bien repartir du bon pied à Melbourne. C'est un reportage d'Arthur Franc.
C'est une Once Jabeur souriante qui s'est présentée sur la terrasse de Melbourne Park. La Tunisienne veut pourtant oublier des mois de souffrance. Une gêne persistante à l'épaule l'a contrainte à ranger la raquette en septembre. En 2024, son corps a dit stop.
Il y avait beaucoup de choses en même temps. Il y avait des douleurs, j'arrivais pas vraiment à frapper ni service ni coup droit. Côté force, j'avais plus de force forcément avec les douleurs. Et du coup, à un certain moment, je me dis mais ça sert absolument à rien de jouer comme ça tant que je suis même pas proche de jouer à 10% ou 20%. Donc c'était vraiment très très bas.
L'ancien numéro 2 mondial a repris le jeu début janvier. Un bon choix avec 4 matchs gagnés et un quart de finale à Brisbane. Durant l'intersaison, elle s'est posé beaucoup de questions et a tenté de solidifier la machine.
Oui, beaucoup de travail physique, beaucoup de rééducation pour laisser le corps revenir au niveau où j'étais un peu, parce que rester quelques mois sans vraiment faire grand-chose était un peu dur.
Double finaliste à Wimbledon, la dernière fois en 2023, Once Jabeur n'a pas perdu cette flamme qui l'habite, remporter un grand chelem. Mais elle doit faire les choses dans l'ordre. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
En Côte d'Ivoire, l'humour à la côte, les spectacles affiches complets, voilà qui donne des idées à la jeunesse. Ainsi à Abidjan, le comédien Koro Abou, figure emblématique de la scène humoristique ivoirienne, s'est donné pour mission de transmettre son savoir-faire et depuis une vingtaine d'années, son académie forme les talents de demain. C'est un reportage d'Abdoulaziz Diallo.
Là, on passe sur quelle séquence maintenant ?
Séquence numéro 1 et séquence 3.
Nous sommes sur le plateau de la série culte, Cour commune, diffusée depuis plus de 10 ans sur la chaîne nationale ivoirienne. Ce programme met en lumière la vie dans une cour commune typique d'Abidjan, où cohabitent des personnages issus des différentes ethnies du pays. Bété, Baoulé, Malinké. Mais ce qui retient l'attention, c'est que les comédiens sont presque tous issus de l'académie Koro Abou. Parmi eux, Akandri, qui incarne avec brio un vieil homme bété, un rôle qu'il doit à l'expertise et à l'exigence de son mentor.
C'est Koro Abou qui m'a appris à être dans ce personnage, à parler comme les bété. Quand j'ai commencé, après, j'ai dit non, écoute, ce rôle-là, ça ne me plaît pas parce que ce n'est pas facile. Et en tant que formateur, il m'a dit « Hey, tu vas jouer ça et tu vas y arriver ».
Dans cette académie, les enseignements théoriques laissent vite place à la pratique. Écriture comique, stand-up, improvisation, tout est mis en œuvre pour éclore les talents.
Il disait toujours le travail d'abord.
Khadija Traoré, une des élèves de l'académie.
Il nous expliquait comment il faut se placer sur scène, en face d'une caméra, comment il faut se déplacer, il ne faut pas être stressé. Aujourd'hui, je suis sur scène, je ne suis pas gêné, même s'il y a des milliers de personnes.
Derrière ce projet ambitieux, Dramé Abdramane, plus connu sous le nom de Koro Abou, il encadre présentement une cinquantaine de jeunes. Du haut de ses 37 ans de carrière, il connaît les clés du succès.
Ceux qui sont intéressés par le domaine viennent s'inscrire. Nous faisons du théâtre, nous faisons aussi de l'humour, nous faisons imitation. Ça va dépendre de ta volonté, ta capacité même d'assimiler.
Après 3 ans de formation, les élèves repartent diplômés, prêts à conquérir les scènes ivoiriennes. Et bien au-delà, l'académie a vu naître des figures emblématiques de l'humour ivoirien, comme l'intellectuel Kaboré.
Il m'a présenté à beaucoup de réalisateurs, à beaucoup de mécènes, et ça m'a beaucoup aidé.
Révélé dans les années 90 grâce à l'émission Dimanche Passion, Koro Abou a su imposer son style. Aujourd'hui, il souhaite, à travers son académie, continuer à transformer la passion du rire de ces jeunes en une véritable vocation. Abdelaziz Diallo, Abidjan. RFI,
vous écoutez Afrique Soir, 18h50, en temps universel à suivre ce soir sur votre antenne. Accent d'Europe nous emmènera en Italie où des citoyens bénévoles se forment pour devenir tuteurs de migrants mineurs isolés. Ce dispositif est né en 2017. Stefania Mazzucci est travailleuse sociale et elle met en garde les tuteurs contre les dangers d'exploitation qui attendent les jeunes.
Malheureusement, il y a des réseaux criminels dans la région qui recrutent des mineurs pour les exploiter dans différents secteurs économiques, soit pour dealer, soit pour transporter de la drogue ou pour les exploiter au travail.
Restauration, tourisme ou agriculture, les MNA sont une main-d'œuvre bon marché pour bon nombre d'employeurs véreux. Sur ces deux points, comme sur tant d'autres, le tuteur est d'une aide précieuse.
Accent d'Europe avec un reportage de Cécile Debarge, écouté en intégralité à 19h10 temps universel ou en podcast sur Pure Radio. À suivre également ce soir, Couleur Tropicale, invité l'auteur, compositeur, chanteur guadeloupéen Thierry Cam, qui est en promo et pour sa fille Ebony, qui est candidate de la Star Academy et qui reprend ce tube planétaire, hymne à l'amour.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. J'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie.
Hymne à l'amour, une chanson, rappelons-le, d'Edith Piaf, elle est sortie en 1950. Les paroles ont été écrites par Piaf, bien sûr, et la musique par Marguerite Monod. Et puis, bien sûr, on se rappelle tous de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec Céline Dion, juchée en haut de la Tour Eiffel. Merci d'écouter Afrique Soir, restez à l'écoute avec nous. Et c'est le moment de faire un petit tour d'horizon de l'actualité musicale en compagnie ce soir de Franck Baudin de la rédaction web d'RFI. Bonsoir Franck.
Bonsoir Sylvie et bonsoir à tous.
Et on va commencer cette sélection par un duo d'artistes originaires de Tunisie. Il vient de sortir un disque la semaine dernière.
Alors ce sont deux artistes tunisiens mais qui se produisent depuis Bruxelles. On connaissait déjà Jawar, ce chanteur qui se réclame de la tradition musicale Chaabi, c'est-à-dire populaire. Depuis plus de 20 ans, l'auteur-compositeur développe son univers folk au fil des albums. Il fait la rencontre de Haza en 2020 lors d'un festival parisien. La chanteuse, qui vient d'un univers plutôt rock psychédélique, pose sa voix délicate sur les mélodies et les paroles de Jawar. Ça donne cet album doux et intimiste, Riout, dont on entend un extrait en ce moment. للعود اللي يرمي وخيول تمشت معا.
Riout du chanteur tunisien Jawar accompagné de Haza, interview signée Marjorie Bertin et c'est à retrouver sur le site d'RFI. Une touche de douceur avant de rentrer dans l'univers du hip-hop.
Alors oui Sylvie, on passe du hip-hop mais on reste au Maghreb, direction le Maroc cette fois-ci où notre correspondant Mathias Reynal nous a dressé le portrait d'un des rappeurs les plus en vue du royaume. Il s'appelle Bocal, il a 24 ans, la coupe au bol et des tatouages un peu partout. Après une année de pause et de remise en question, le gamin de Casablanca revient avec un EP qui s'appelle Dracula, un mini-album de 7 titres qui a du mordant et qui s'adresse à ses détracteurs. On écoute le titre Moon. وخا عايشين لاباس حيتشوف الفلكة باش مشاكل كيف المور راه كنشوفو غالمور كيسبو بروشي فمور
Moon du rappeur marocain Bocal. On continue Franck, cette sélection est toujours dans le rap.
Alors plus précisément du rap ivoire Sylvie et qui nous vient
de Côte d'Ivoire.
Exactement, comme son nom l'indique, c'est notre correspondant à Abidjan, Benoît Almeras, qui nous a ramené cette pépite dans son sac. C'est Le Sky qui lui aussi bouscule les codes du hip-hop. À 22 ans seulement, avec son humour, sa vulgarité et son style en marge, il séduit les nouvelles générations. Sous ses airs de feignant, ce natif de Yamoussoukro s'est formé tout seul à la production musicale. Il vient d'annoncer un nouvel album, Le Vrai Cabri 2, à venir la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter son dernier single, Tchekoumoulé, avec le rappeur nigériano-ivoirien Fjord Björk.
Position, Tchekoumoulé, enveloppé, Kassamoulé. Petit wo vend son cul au piment. Il est vu devant bâtiment. Il me dit, pourquoi tu mens? Wow, wow, pourquoi tu mens? Nous suis d'un beau petit brigand. Allant les casser sa tête, j'étais les gants. Wow, beau dans le banc. Wow, wow, mais beau dans le banc. De temps en temps, on s'en les bancs. De temps en temps, on s'en les bancs.
Tchekoumoulé du rappeur ivoirien Le Sky avec Fjord Björk. Retrouvez tous nos contenus musicaux sur rfi.fr/musique, c'est la nouvelle adresse. Merci de nous avoir suivis au mixage Michael Goncalves, que je salue, et à la réalisation de cette émission Raphaël Lazizi.
Ce lundi sur RFI,
que disent nos mots
autour de la question avec Caroline Lachowski.
Comment le cerveau appréhende les mots? Comment les bébés apprennent-ils le sens des mots? Interrogation ouverte par le chercheur Xavier Alario dans un essai percutant. L'esprit des mots pour une nouvelle neuroscience du langage. Esprit, es-tu là, déjà, dans nos mots?
Autour de la question, tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
candidater jusqu'au 26 janvier sur APAFRIQUE, APAFRIQUE.RFI.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Devenir parent quand on est handicapé, reportage de Charlie Dupiot.
Mercredi.
Second volet du reportage, parents du Gabon et du Cameroun.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.